L'épître aux Romains, au chapitre 15, l'épître aux Romains, le chapitre 15, et on lit ensemble à partir du verset 4, Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Amen. » Et puis le verset 13 du même chapitre, le verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. » Tout à l'heure, dans le message, nous ferons deux autres lectures. Mais déjà ici, j'aimerais, frères et sœurs, vous parler de trois maillons qui forment une chaîne dans laquelle Dieu veut nous faire cheminer et qui nous amène dans un processus de victoire, de vie chrétienne épanouie, affranchie de toutes sortes d'entraves. Ces trois maillons, je les nomme en introduction directement, sont la persévérance, la consolation et l'espérance. C'est ainsi que l'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains mais aussi à nous, présente le Dieu de la Bible. Quelqu'un comparait la personne de notre Dieu à un diamant aux multiples facettes. Eh bien, on va en redécouvrir trois, parce que vous connaissez ces choses déjà, mais on va les rappeler à notre mémoire, trois facettes de sa personne ineffable. Il est le Dieu de la persévérance, le Dieu de la consolation et le Dieu de l'espérance. Et non seulement il l'est, mais ce qu'il est, il nous le communique. Le Dieu de la persévérance nous rend persévérants. Le Dieu de la consolation nous console comme personne n'en serait capable. Et le Dieu de l'espérance nous communique une espérance à toute épreuve, une espérance vivante qui va nous permettre, ici-bas, malgré quelquefois des problèmes inextricables et effrayants, d'être épanouis. Amen. D'être vainqueur. Alléluia. D'avoir ce reflet divin sur notre visage. De tenir un discours qui n'est pas le discours rationnel d'un cerveau humain, mais qui est le discours de la foi, le discours du royaume des cieux, des chrétiens vainqueurs et épanouis. C'est ainsi que le Seigneur nous désire les uns les autres. Alors je voudrais qu'ensemble nous nous arrêtions à chacune de ces trois valeurs si importantes. Dieu te veut persévérant. Amen. Il est le Dieu de la persévérance. Il veut te donner une capacité de persévérance à toute épreuve. La persévérance, c'est parmi les valeurs essentielles, une valeur qui fait beaucoup défaut aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est persévérant en rien. Notre société, c'est la société du zapping. On essaye, ça ne marche pas, on essaye autre chose, ça ne marche pas, et on tourne en rond toute sa vie. On tâtonne, on butine, et on manque de consistance. Il n'en est pas ainsi avec le Seigneur, parce que lui, c'est le Dieu de la persévérance. Quelques commentaires, parce que simplement cette thématique mériterait des heures d'explication, mais quelques commentaires simplement. Premier commentaire, parce qu'il est le Dieu de la persévérance, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Sa qualité de persévérance parfaite fait que rien ni personne ne réussirait à le prendre de court. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot, non seulement d'une façon universelle et générale, mais aussi dans ta vie, dans tes luttes, dans tes faiblesses, dans ta marche qui pourrait être entremêlée d'imperfections, de défaillances. C'est le Seigneur qui aura toujours le dernier mot. On lira tout à l'heure dans ce merveilleux livre de Job, mais déjà une parole qu'il a pu proclamer. « Je sais que mon Rédempteur est vivant », va dire Job. Est-ce que tu le sais ? Mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, lui, le dernier. Amen. Précédemment, il y aura des épreuves, des circonstances, des séismes, des secousses, des inondations dévastatrices. Il pourrait y avoir toutes sortes d'intempéries dans la météo du chrétien, mais celui qui se lèvera en dernier, c'est le Seigneur. En témoignage de son règne, de sa victoire et de l'aboutissement de ses desseins. Parce que tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Et dans ta vie. C'est donc le Dieu de la persévérance et il veut nous rendre persévérants. À celui ou à celle qui aurait l'impression ce matin d'être au bout de ses capacités, d'être à un pas de défaillir, je suis heureux de te dire que le Dieu de la persévérance te donne la persévérance nécessaire pour aller, amen, pour aller, je ne dis pas une semaine de plus, un an, 15 ans, 20 ans, mais pour aller jusqu'au bout. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Amen. Moi, j'aimerais qu'on soit tous des jusqu'au boutistes, nous. Ou non? Est-ce que tu es un jusqu'au boutiste? Jusqu'au bout. Alléluia. Un jour, je regardais, parce que j'aime beaucoup le sport, d'ailleurs, je suis sportif, ça se voit, hein. Un ex-sportif. Je le dis à ma honte, hein. Mais j'aime beaucoup le sport. Et un jour, je regardais les JO d'athlétisme, je ne sais plus en quelle année. Et c'était un sprint de 100 mètres et féminin. Et c'est impressionnant, quoi, les performances, la tonicité de ces athlètes qui se sont entraînés toute l'année pour un événement. Et il y avait une coureuse noire américaine, mais impressionnante, au starter, elle bondit et elle court, mais elle a peut-être 3 mètres d'avance sur toutes les concurrentes. Et à 5 mètres de la ligne d'arrivée, elle se fait un claquage musculaire aux ischios. Elle s'effondre à 5 mètres de la victoire. Un an d'entraînement, de privation, de discipline rigide, dans la perspective d'une médaille d'or. Imaginez le drame pour cette jeune sportive, quoi. Et quand j'ai vu ça, ça m'a enseigné au plan spirituel. Et je me suis dit, Jean-Marc, il ne faudrait pas que tu sois en tête pendant les 9 dixièmes de la course, parce que ça ne te servirait à rien si tu ne persévères pas jusqu'à la fin. Et à quelqu'un qui serait à un pas de démissionner, de baisser les bras, d'admettre que finalement, eh bien, les mensonges du diable sont crédibles. Ne laisse pas ces mensonges s'insinuer dans tes pensées. La Bible me dit de résister au diable par la foi persévérante, c'est possible. Et arme-toi de cette vision, mon frère, ma sœur. Dieu t'appelle à persévérer jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. La persévérance, on pourrait la présenter sous bien des aspects. Il y a, comme je viens de le dire, une notion de durée jusqu'à la fin. Il y a une notion de consistance, de résistance, parce que quelquefois, il va falloir qu'elle soit très résistante. Mais ce que je voudrais ce matin vous présenter, en parlant de notre persévérance, c'est un autre aspect, c'est la capacité de conserver dans sa qualité originelle la pureté et la vitalité de notre foi. La persévérance, c'est aussi le maintien de la qualité. C'est l'entretien, c'est la maintenance, c'est le renouvellement de la fraîcheur. Gloire à Dieu. Parce que je ne voudrais pas aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, mais vous savez, comme ces vieux grognards de Napoléon, quand ils sont rentrés de la Bérézina, ils sont rentrés, il leur manquait une jambe, ils étaient estropiés, il leur manquait un œil, trois oreilles, enfin bon, je ne sais pas. Ils sont rentrés vivants, mais pas en très bon état, quoi. Et je ne voudrais pas terminer ma vie avec le Seigneur ici sur terre, avec des tas d'infirmités, mais la persévérance, elle est capable de maintenir la fraîcheur et la pureté et l'authenticité de ma foi dans le Seigneur. Élisée a été atteint dans son corps par la maladie qui a eu même raison de lui. Mais il n'a pas été atteint dans son âme. Sa persévérance n'a pas pris une ride. Lorsque le roi Joas vient avec des formules nostalgiques, « Ah, mon père, etc. » Mais Élisée s'exprime immédiatement comme un personnage dont l'intérieur a été renouvelé dans sa persévérance. Son esprit de victoire, son esprit de conquête, son esprit de foi n'a pas du tout fléchi. Ça ne s'est pas affaibli intérieurement. Alors il dit « Ouvre la fenêtre ». Moi j'ajoute « Arrête de gémir ». Prends un arc, prends des flèches et tire. Et après avoir mis ses mains sur celles de Joas, il ordonne. Joas décoche une flèche. C'est une flèche de délivrance. Moi, je prie pour que ce matin, cette prédication soit une flèche de délivrance, de victoire, d'encouragement, en particulier peut-être pour une personne qui serait là dans un état intérieur urgent. La persévérance, c'est le renouvellement de la qualité de ma foi. Je veux garder une foi pure, une foi qui s'attend au Seigneur, qui s'attend aux guérisons, aux miracles, au baptême dans le Saint-Esprit et aux exaucements aussi. Lorsque nous prions, si nous prions sans être dans l'attente que Dieu exauce la prière, nos prières deviennent des litanies, des formules insipides. Ma Bible me parle de la prière de la foi. Et pour que ma prière demeure la prière de la foi, après plusieurs décennies de marche chrétienne, il me faut de la persévérance. Il me faut ce renouvellement. Soyez renouvelés. Alléluia. Que le Seigneur nous donne. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église naissante. Nous sommes tous émerveillés par les témoignages de puissantes démonstrations divines qui marquent les chapitres du livre des Actes des Apôtres, à Jérusalem, acte 2, puissante effusion du Saint-Esprit. 120 sont baptisés du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le lieu où ils étaient assemblés à trembler. C'est quand même pas banal. Dans le même chapitre, première prédication. Ils ont le cœur vivement touché, 3000 baptêmes. Un ancien pasteur, il a été mon formateur, Michel Arlette, vous le connaissez, Robert Burki disait, il a fallu une prédication pour avoir 3000 baptêmes, aujourd'hui il faut 3000 prédications pour avoir un baptême. Il avait le sens de la formule. Mais quelle puissance ! Acte 2, acte 3, un quadragénaire, infirme de naissance, Pierre et Jean viennent, et d'un mot, d'un seul, ils exercent un don de foi, un don spirituel. Et l'infirme se lève immédiatement, ses chevilles mortes sont raffermies, il marche, il saute. Et il loue le Seigneur en entrant dans le temple. Ça a dû déranger quelques vieux pratiquants, mais lui, il était tellement transporté de joie. Acte 4, il prie tous ensemble. Et il y a une deuxième effusion puissante du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Bientôt, ils arrivent à 5000 disciples. Et puis un jour à Jérusalem, on voit arriver un certain Saul de Tarse, mais converti. Et là, il y a un premier symptôme. La vie spirituelle de l'Église à Jérusalem commence à exprimer certains signes inquiétants. Parce que la Bible nous dit que quelques-uns n'ont pas cru ça. Des chrétiens qui avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, acte 2. Des chrétiens qui avaient vu le boiteux du temple libéré, des chrétiens qui ont été renouvelés, acte 4, des chrétiens qui ont connu la puissance de Dieu, au point que dans les rues de Jérusalem, Pierre marchait et son ombre couvrant les malades étaient guéris, quelle démonstration de puissance! Mais un premier signe qui m'interpelle, devant Saul de Tarse, qui cherchent à se joindre à eux en leur disant « J'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas et voici mon témoignage. » À Jérusalem, on ne l'a pas cru. On a cru à une ruse du persécuteur. Mais le persécuteur était mort. Et c'est le serviteur de Dieu qui vient de ressusciter, hein, qui vient de naître de nouveau, alléluia. Mais à Jérusalem, un premier, on ne croit pas. Et puis les chapitres s'égrènent. Il y a l'épisode de Corneille. Pierre est envoyé chez Corneille, un païen. Corneille se convertit, tous les siens se convertissent, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et au chapitre 11, il faut que Pierre rende compte à ceux de Jérusalem. Et il dit, écoutez, ne vous énervez pas les frères, il m'est arrivé ceci. J'ai été long à être convaincu par moi-même, mais à trois reprises, il y a eu la nappe avec l'injonction divine. Alors je suis allé et voici ce qui s'est passé. J'ai même pas eu le temps d'arriver à mon troisième paragraphe de la prédication. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et tous ces gens, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Je vous raconte, et il a fallu des explications étayées de l'apôtre Pierre pour apaiser ceux de Jérusalem qui commençaient à se scandaliser. Il est allé chez un païen. Et puis, en raison de les difficultés survenues, il y a eu, vous le savez, un éparpillement des disciples dans tout ce secteur. Et puis, ces disciples ont témoigné de Jésus, des conversions, des églises. Et à Antioche, une église s'est constituée. Et acte 13, on trouve que Antioche, l'église d'Antioche, elle est remplie du Saint-Esprit. Chapitre 13, il y avait en Antioche des docteurs, des prophètes, ils servaient Dieu dans le jeûne et la prière. J'ai l'impression dans ce survol panoramique de tous ces chapitres que quelque chose à Jérusalem est en train de, comment dire, d'évoluer vers un mauvais vieillissement, il y a un peu de légalisme, il y a des a priori, il y a des choses qui peu à peu sont en train de se constituer, peut-être même à l'insu, inconsciemment, vous voyez. Et parallèlement, sur Antioche, l'Esprit de Dieu souffle et il y a une église remplie du Saint-Esprit avec des paroles de Dieu. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, etc., etc. Et Paul et Barnabas, vous le savez, vont, ils ont vraiment la grâce d'apporter Christ dans des villes, dans des régions païennes. Et il faut, chapitre 15, il faut qu'à Jérusalem, on explique, on apaise la virulence du légalisme et qu'on dise, les frères, voilà ce qui s'est passé quand même. Voilà les conversions que Dieu a opérées, les guérisons, les délivrances de possessions démoniaques, des vies transformées, oui, parmi les païens. Il a fallu insister, expliquer, étayer pour à peu près apaiser. Ce que je veux dire par là, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il me semble, mais ça c'est mon analyse personnelle, mais je pense qu'elle vaut quand même quelque chose, qu'à Jérusalem, ils n'ont pas veillé à persévérer dans le maintien de la qualité originelle de leur foi, de la fraîcheur de leur foi. Il leur a manqué certainement d'être renouvelés dans leur intelligence spirituelle. Moi qui vous parle, je sais très bien que je n'ai pas tout compris, mais j'ai soif que Dieu éclaire mon intelligence. Je veux apprendre encore et encore. Et toujours. Alléluia. Et c'est ainsi que la vie avec Dieu doit être une découverte permanente, un émerveillement permanent. Quand le Seigneur m'ouvre l'intelligence, ça me maintient dans la fraîcheur spirituelle. Tous ceux parmi nous qui croient tout savoir, il y a une petite sonnette d'alarme là, j'actionne la sonnette d'alarme. Tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence, afin de persévérer dans la pureté de la foi originelle, dans sa fraîcheur, dans sa tonicité, alléluia, dans son authenticité, que le Seigneur soit béni. C'est une chose importante de garder notre foi dans sa qualité plénière, dans sa fraîcheur, sa pureté. Vous savez, moi, j'ai vécu dans une ville à Lyon. Les Lyonnais disent, c'est la ville aux trois fleuves. Il y a le Rhône, il y a la Saône et il y a le Beaujolais. Ça, c'est les Lyonnais qui disent ça. Mais voyez-vous, le Rhône, quand vous le voyez d'un des nombreux ponts de Lyon, mais vous voyez des eaux boueuses, sales. Mais vous allez à la source de ce fleuve, vous avez une eau magnifiquement pure et bienfaisante. La foi, c'est ce fleuve. Il faut remonter à sa source. C'est là qu'il est pur. Au fil des siècles, au fil des années dans notre propre marche chrétienne, des éléments indésirables peuvent se mêler à l'eau pure et faire de notre foi une foi dévaluée, dégradée, affaiblie. Eh bien, il faut retrouver la foi des origines. Amen. La persévérance, c'est aussi ça, le maintien de la qualité de ta foi. Persévère dans une foi totale, sans si, sans mais, sans limitation. C'était pour le premier siècle. Vous voyez, on a inventé dans le tissu évangélique des tas de faux arguments qui viennent détériorer la pureté de la foi. Moi, je crois que mon Dieu ne change pas. Et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il est au milieu de nous ce matin et qu'il peut accomplir les mêmes miracles qu'il a fait hier. S'il y a un malade, réjouis-toi, Dieu te guérit ce matin. Si quelqu'un est venu avec un énorme fardeau sur son âme, prends courage, parce que Dieu est le Dieu de la persévérance. Il a le dernier mot, il pose sa main sur toi et te sort de ce fardeau qui accable ton âme, t'interdit la joie et l'épanouissement. Que le Seigneur nous fasse du bien. C'est le Dieu de la persévérance. Maintenant, quelqu'un me dira, c'est beau ce que vous dites, frère, mais comment y arriver ça? Alors il y a le deuxième maillon, c'est le Dieu de la consolation. Et je dirais que là, dans ce mot, consolation, qu'on va essayer de décortiquer tout à l'heure, on trouve le moyen que Dieu utilise pour nous rendre persévérants. Seigneur, je veux être persévérant, mais tu connais, Seigneur, les étapes, les séquences par lesquelles je passe. Comment faire? Comment faire? Par ma consolation. La persévérance de l'enfant de Dieu n'est pas linéaire comme ça. Que personne ce matin parmi nous ne se culpabilise de ses défaillances. Les personnages les plus excellents des Saintes Écritures ont eu leurs défaillances. La persévérance n'est pas linéaire, elle n'est pas comme cela rectiligne, mais forcément, forcément, elle aura des césures. Elle aura des défaillances. Et à chaque césure, à chaque défaillance, il y a le moyen. C'est la consolation. C'est le Dieu de la consolation. Et je le disais, il répand sa consolation dans le cœur de son enfant chaque fois que c'est nécessaire. D'ailleurs, on va tous dire un grand amen tout à l'heure. Vous êtes d'accord, cette salle serait vide si Dieu ne nous avait pas consolés. Oh, plus fort, plus fort. Ah oui, mais si nous sommes là, c'est parce que combien de fois Dieu nous a consolés? Allez, faites pas les invulnérables là. On est tous vulnérables. Combien de fois tu as été atteint? Combien de fois ta paix a été dangereusement compromise? Combien de fois tu as dû gérer des situations violentes, effrayantes? Combien de fois l'angoisse a étreint ton âme, t'a privé de sommeil même? Combien de fois tes nuits sont devenues blanches parce que là, l'usine à penser était incontrôlable? Combien de fois? Et puis, avec sa fidélité parfaite, le Dieu de la consolation est intervenu. Il t'a parlé. Ça peut être de mille façons. Un cantique inspiré, une parole d'une prédication, un coup de téléphone d'une sœur au bon moment et les bonnes paroles. Dieu a des moyens merveilleux pour déverser sa consolation. Dans ce mot, frères et sœurs, j'y vois plus qu'un mot, mais j'y vois un programme de bénédiction pour chaque enfant de Dieu. La consolation de Dieu, c'est un programme. C'est pas une petite tape sur l'épaule et un petit réconfort. Non, c'est un programme. Tout à l'heure, notre frère parlait de la puissance de résurrection du Seigneur. Je dirais que la consolation que Dieu déverse dans mon cœur et dans ton cœur, c'est une puissance de vie. Que quelqu'un dise amen. Une puissance de vie, une puissance agissante à l'intérieur. Il y a dans cette puissance de vie tant et tant d'aspects. J'ai noté ici quelques aspects. Il y a une puissance de guérison intérieure, de restauration intérieure. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses un pas de plus en traînant les mêmes douleurs, les mêmes blessures qui tardent à se cicatriser, et il y a comme une sorte de purulence, de gangrène qui infecte ta vie intérieure. Mais Dieu veut accomplir à l'intérieur de toi-même une vraie guérison. La guérison de tes traumatismes, même les plus anciens qui pourraient remonter à ton enfance, le Seigneur ce matin veut déverser en toi sa divine consolation qui équivaut à une guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit, et il me semble vous l'avoir dit déjà ici à Aubagne, c'est un présent de constance. On pourrait, mais en français ça fait un peu lourd, on pourrait dire « Je suis l'Éternel qui suis toujours en train de te guérir ». Mais on comprend mieux là. Il est toujours en train de nous guérir. Et tout au long de ma marche, j'ai besoin de replonger mon âme dans sa guérison. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des guérisons physiques instantanées, aussitôt, et puis il y a des guérisons qui sont un processus de guérison. J'ai toujours besoin, voilà. Et il y a ici une attitude, ici une parole, ici un regard, et puis dans ma boîte aux lettres, une mauvaise nouvelle, un coup de téléphone qui voudrait me troubler. Mais moi, je suis en train toujours de me plonger dans la guérison du Seigneur. Gloire à Dieu! C'est le Dieu de la consolation, c'est une guérison permanente. Dans cette consolation, il y a aussi le relèvement de nos chutes. Je ne vais pas m'étendre, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a aussi la notion de l'apaisement émotionnel. On ne va pas trop en parler ici, mais je vous propose de faire une lecture, et même deux, où je vais découvrir avec vous un autre aspect que comporte la consolation divine. Voulez-vous lire avec moi dans Job, au chapitre 42, et les versets 12 à 17. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Kerenapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Joël, chapitre 2, et le verset 23 jusqu'au verset 29, un texte absolument sublime. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Et ce verset 25, et je prie pour qu'il s'inscrive dans ton cœur ce matin. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, en lien avec l'effusion du Saint-Esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et le verset 29, « Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Des textes sublimes qui expriment la richesse, l'intensité de ce flot de consolation dont Dieu est capable. Avec cette insistance que j'ai placée tout à l'heure dans le verset 25 de Joël 2, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dans la consolation que Dieu veut répandre dans ton cœur, il y a la dimension, de la compensation. La compensation. Le diable est qualifié de voleur. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. C'est le voleur. Et en usant de ses multiples stratagèmes, il se pourrait qu'il t'ait volé quelque chose. Qu'il t'ait volé une partie de ton territoire. Qu'il t'ait volé ton innocence. Quelqu'un peut-être s'est laissé voler sa joie. Vous savez, cette joie du salut. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits sur le livre de vie. Quelqu'un peut-être a permis au voleur de la lui voler, cette joie. Peut-être l'adversaire a réussi à te voler ta consécration. Tu faisais partie des chrétiens les plus zélés de l'Église il y a trop longtemps. Et aujourd'hui, tu es à l'inverse. Mais peut-être qu'il y a une petite flamme dans ton cœur, comme une prière, qui dit « Seigneur, j'aimerais redevenir ce chrétien-là, cette chrétienne-là, j'aimerais revivre. Des flots ont passé sur ma vie, des vagues violentes, et je ne suis plus ce que j'ai été, Seigneur. » Mon frère, ma sœur, ton Dieu, c'est le Dieu de la consolation, et dans sa consolation, il y a la compensation. Avec lui, tu peux retrouver le territoire que le diable t'a volé. Avec lui, tu peux retrouver ta dignité compromise. Avec lui, tu peux retrouver le jaillissement des dons spirituels. Ça fait combien de temps que tu n'exerces plus les dons spirituels? Eh bien, ton Dieu a promis, je vous remplacerai ce que la sauterelle vous a volé. C'est ça le Dieu de la consolation aussi. C'est la compensation. Gloire à Dieu. Il vaut mieux ne pas permettre à l'ennemi de nous voler quoi que ce soit. Mais si ça s'est produit, il ne faut pas rester dans la confusion. Vous avez vu comment l'Éternel a consolé Job? Il a eu le double de ses possessions d'antan. Il a eu trois filles, ça c'est les gens bien. Les gens bien, ils ont trois filles, au moins. Et puis des fils. Et ces trois filles étaient les plus belles du pays, jusqu'à ce que les miennes viennent au monde. Et bon, c'est comme ça. C'était les plus belles. Quelle compensation! Mais moi, je dis aussi une chose. C'est qu'il y a eu une compensation dans sa vie de couple. Parce que pour avoir toute cette descendance, il a bien fallu que l'amour au sein du couple soit restitué. Parce que dans le couple de Job et de Madame Job, à un certain moment quand même, c'était difficile. Imaginez une épouse qui porte ses regards sur son mari qui était un homme honoré de tous et qui est réduit dans un état physique et même moral aussi bas. Imaginez sa douleur, sa désillusion. Ce fut une épreuve aussi pour Madame Job. Elle l'a gérée comme elle a pu. Elle n'a pas pu s'empêcher de dire qu'on en finisse. Hein. Maudit Dieu et meurt. Bon, c'est encourageant, ça. Mais enfin, on peut aussi comprendre ça. L'atmosphère dans le couple était insoutenable. Mais Dieu a été le Dieu de la compensation, de la consolation. Il est capable de restaurer l'amour dans un couple. C'est ce qui s'est passé pour Job, puisqu'il a eu tous ses beaux enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, pour en terminer rapidement, il y a eu compensation même au niveau de sa longévité, parce qu'il aurait dû mourir là avec tous ces trucs-là. Il aurait dû mourir lamentablement, mais pas du tout. Dieu l'a guéri et Dieu lui a donné en 13e mois 140 ans de vie. C'est un beau sursis quand même. Hein, 140 ans de plus. Et il a vécu dans cette consolation, mais je dirais débordante. Et il a quitté la terre âgé, rassasié de jours, et voilà, et il a rejoint son Dieu. Voilà ce que ton Dieu, parce que c'est le même que celui de Job, est capable de faire dans ta vie. C'est dans cette dimension-là. Alors, je ne te dis pas que tu vas vivre encore 140 ans, mais vous comprenez l'image, vous comprenez le message, il peut te consoler infiniment au-delà de la norme que nous pourrions envisager avec notre petit cerveau. C'est comme ça que Dieu veut consoler ses enfants. Alors bien sûr, quand on est consolé, eh bien, on redevient persévérant, on persévère, on y va, et jusqu'au bout, et il y a la troisième conséquence, et je termine, c'est l'espérance. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Dieu de l'espérance veut te remplir de son espérance en sachant que les trois choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut faire si, brusquement, on perd notre espérance? Le peuple d'Israël, dans une séquence difficile de son histoire, tenait ce langage. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Conclusion, nous sommes perdus. Mais Dieu a vu cela, et il a entendu ces paroles. Alors il a envoyé son prophète Ézéchiel. Et à travers son prophète Ézéchiel, Dieu a repris son peuple pour le relever et pour lui montrer que non, son espérance n'était pas détruite. Qu'il demeurait, lui, le Dieu capable de faire de ces monceaux d'ossements desséchés une armée vivante, nombreuse, debout et conquérante. Gloire à Dieu. Notre espérance est détruite quand Dieu constate chez nous de telles pensées ou un tel discours. Il nous sait en danger. Alors ils volent à notre secours et ils te disent ce matin, non, ton espérance n'est pas détruite. Non, ton espérance fait partie de ces droits critères qui demeurent éternellement. Parce que je suis le Dieu de l'espérance, je te remplis d'espérance. Que l'espérance de Dieu remplisse ton cœur ce matin. Remets-toi à espérer. Alléluia. Espère en l'Éternel, ô mon âme. C'est ce que le psalmiste dit tant et tant de fois. Espère en l'Éternel, ô mon âme. Et sans aller trop loin, j'aimerais rappeler que notre espérance est comparée dans l'Épître aux Hébreux à l'encre de l'âme, qui, comme l'encre d'un bateau, est l'ustensile nécessaire à stabiliser l'âme. Amen. Je ne veux pas trop développer sur cet aspect de la stabilité intérieure que Dieu veut pour chacun de ses enfants, mais j'aimerais simplement le mentionner. Ton espérance en ton Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, mais qui est fidèle pour honorer ses promesses, va stabiliser ton âme, stabiliser tes émotions. Tu vois, parce que si tes émotions se soustraient à l'influence de Dieu, tes émotions t'entraîneront à te cracher sur quelques récifs. Donc, l'espérance que Dieu veut te donner va stabiliser ton âme. Repousse l'inquiétude. Allez, évacue les scénarios d'horreur. Hein, ton imaginaire construit des tas d'images là. Eh bien, enlève, évacue ces choses et confesse tout à nouveau à ton Dieu que ton espérance est placée en lui. Il est le Dieu de ton espérance est ancrée en lui. Alors, tu resteras stable, paisible, plein d'assurance et de sécurité. Que le Seigneur soit béni. Voulez-vous que nous prions le Seigneur?